Ach.
Chapitre de l'histoire tchèque. David, allons.
Nous revenons aujourd'hui sur Reinhard Heydrich, chef du protectorat de Bohême-Moravie, à l'occasion de la publication en août 2008 de Heydrich et la solution finale d'Edouard Husson. L'historien met en lumière des éléments méconnus quant au rôle central qu'occupe Prague dans l'esprit génocidaire des nazis. Il nous apprend aussi l'existence d'une question tchèque. Freiherr von Neureit revient tout juste du front des citoyens de l'honneur. Comme un seul homme, se tiennent les soldats d'Adolf Hitler qui tendent le fusil de manière inflexible. Un mur infranchissable se tient là pour accueillir le Reich Protector. Au-dessus, on peut apercevoir de petites croix gammées que des petits enfants tiennent dans leurs mains, accueillant le Reich Protector avec zèle. Nous sommes le 5 avril 1939 et la radio allemande annonce l'arrivée de Constantin von Neurath, protecteur de Bohême-Moravie, à la gare ferroviaire de Wilson, à Prague. Près de 2 ans plus tard, en septembre 1941, jugé peu efficace, il est remplacé par Reinhard Heydrich. Les temps vont radicalement changer et tout le monde le sait. L'homme qui débarque n'est pas un inconnu, puisqu'il est le chef du RSCA qui rassemble les services de renseignement et de police du Reich. Mais Heydrich est également l'un des principaux coordinateurs de la solution finale de la question juive, la Shoah. Outre la montée de la résistance tchèque, c'est le projet génocidaire qui a motivé Hitler pour nommer Heydrich à Prague, la ville permettant d'installer le poste de commandement de l'extermination en plein cœur de l'Europe. Pour les nazis, la montée de la résistance tchèque ne peut s'expliquer que par l'action des Juifs, ainsi que Hitler l'exprime en septembre 1941. Ce sont les Tchèques qui seront les plus touchés par la décadence du bolchevisme, car ils ont toujours regardé avec un secret espoir du côté de la mère Russie. Notons que dans le lexique nazi, le bolcheviste est presque toujours synonyme de juif. Dans l'esprit de Heydrich, la Bohême, citadelle de l'Europe selon l'expression de Bismarck, devait devenir le territoire modèle de la solution finale, une sorte d'exemple pour le reste de l'Europe. Les nazis font par ailleurs une fixation particulière sur les pays tchèques, terre de germanisme, mais aussi du coup de poignard dans le dos. Mythe transformé en accusation et servant à expliquer la défaite allemande lors de la Première Guerre mondiale. La guerre de 30 ans n'avait-elle pas commencé par une défenestration à Prague? Heydrich évoque d'ailleurs expressément la solution finale de la question tchèque. Selon lui, 40 à 60% des Tchèques ne sont pas germanisables. Leur sort, il le suggère lors d'un discours édifiant qu'il prononce à Prague le 2 octobre 1941 devant les responsables de l'administration du protectorat. Nous pourrions peut-être, en ce qui concerne les Tchèques qui ne sont pas germanisables, profiter de ce que nous aurons accès à la mer Blanche. Nous y reprendrons à notre compte les camps de concentration des Russes. Il s'y trouverait 15 à 20 millions de détenus, ce qui en fait l'endroit idéal pour réinstaller les 11 millions de Juifs européens. On y enverra les Tchèques, non germanisables, qui auront ainsi l'occasion d'accomplir quelque chose de positif, en devenant des gardiens et des pionniers dans cette région. Capot et Colomb, tel était donc le destin hypothétique des Tchèques non germanisables. Analysant ce discours, l'historien allemand Martin Brosat évoque une manipulation possible de l'auditoire. Comme souvent avec le langage codé de la Shoah, il faut bien lire entre les lignes. Car au moment même où Heydrich parle de déporter les Juifs d'Europe en Russie, des millions d'entre eux sont déjà massacrés en Europe centrale, après le laboratoire de la Shoah par balle en URSS occupée. La guerre finit moins vite que prévu, et la déportation des Juifs vers les territoires sibériens pour l'après-guerre est déjà lettre morte. La solution finale aura lieu en Europe même, et cela est décidé dès la fin de l'année 1941. Le 27 mai 1942, coup de théâtre, Reinhard Heydrich est l'objet d'un attentat signé par un commando tchèque parachuté de Londres.
Achtung, Achtung! Amtlich wird bekannt gegeben. Im Zuge der Fahndungen nach den Mördern.
Attention, attention, voici une déclaration officielle. Au cours des recherches sur la mort du SS Obergruppenführer Heydrich, ont été révélés des éléments irréfutables indiquant que la population de la localité de Lidice a prêté aide et soutien au cercle des coupables. Il s'ensuit que les habitants de ce village ayant gravement contrevenu à la loi, les hommes seront tués, les femmes envoyées dans des camps de concentration et les enfants recevront une éducation appropriée. Tous les bâtiments du village seront rasés et le nom de la commune effacé à tout jamais. Cette annonce est diffusée par la radio allemande dans le protectorat de Bohême-Moravie le 10 juin 1942, 6 jours après la mort de Heydrich. Aussi martiale soit-elle, elle ment, puisque une partie des femmes seront fusillées et des enfants seront déportés à Chełmno, en Pologne, où ils seront gazés. De même, le responsable ne mentionne pas les 1000 juifs tchèques qui partent pour le camp de Majdanek, en Pologne, en guise de représailles. Arrêtons-nous pour finir sur le profil troublant de Heydrich, homme cultivé, père de famille, mais également criminel de masse. Le père de Heydrich, Bruno, était un compositeur secondaire, mais qui avait écrit de nombreux opéras en hommage à Wagner, une source d'inspiration musicale et antisémite que ne réunira pas le fils, violoniste confirmé. À la veille de l'attentat, Heydrich avait d'ailleurs fait interpréter les œuvres paternelles au Théâtre National de Prague. Hannah Arendt a tiré son concept de banalité du mal à partir de l'exemple unique d'Eichmann, petit fonctionnaire zélé et incapable de distinguer le bien du mal. Ceux qui ont impulsé et participé directement à la Shoah n'étaient pas dans ce cas. La SS était en effet composée depuis 1934 de nombreux aristocrates, intellectuels, issus de l'université, ou encore jeunes économistes, bref, une sorte d'élite éduquée. Ce constat n'est pas le moins inquiétant.